Quand vous entendez le mot « prophétie », vous vient-il à l'esprit plusieurs idées qui provoquent en vous des sentiments que vous avez du mal à identifier? Même si vous êtes une personne qui prend les prophéties bibliques au sérieux, c'est d'ailleurs ce qu'il faut faire, elles peuvent parfois sembler n'avoir aucun rapport avec vous et ne pas vraiment vous concerner. Les prophéties traitent généralement d'événements à portée nationale, internationale et parfois même cosmique. Mais elles ont souvent aussi une dimension très personnelle. La Bible prophétise sur l'avenir des nations du monde. Or, ces nations sont remplies de gens comme vous et moi. C'est pourquoi les événements prédits par la Bible vont nous affecter en tant qu'individus. Les prophéties auront un impact immense sur notre vie future parce qu'elles décrivent les événements qui approchent. Et nous aurons besoin de les comprendre afin de pouvoir les aborder de la bonne façon. Les événements qui vont bientôt se produire dans notre vie, dans la vôtre et dans la mienne, vont nous forcer à faire des choix et à passer à l'action. Vous devez savoir ce qui nous attend. Restez à l'écoute. Salut à vous! Nos auditeurs réguliers savent bien. Le thème de la prophétie revient souvent dans nos émissions. Contrairement aux autres textes religieux, la Bible est remplie d'annonces décrivant l'avenir et le sort des nations et de notre monde en général. C'est pourquoi Jésus-Christ et ses apôtres ont exhorté les gens à être attentifs aux prophéties. Malheureusement, parmi ceux qui affirment de nos jours suivre les enseignements du Christ, très peu examinent les prophéties comme il se devrait. Répondant aux dirigeants religieux de son temps, qui demandaient un signe, Jésus-Christ leur a dit qu'ils ne connaissaient pas les prophéties. Matthieu 16, à partir du verset 2. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » En ce qui nous concerne, quand nous entendons prononcer le mot « prophétie », nous ne pensons pas nécessairement à des choses qui pourraient avoir un impact sur nous, personnellement, dans notre vie. Et pourtant, les événements prophétisés qui doivent se produire d'ici quelques années auront un impact certain et profond sur chacun de nous. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 prophéties qui auront un impact réel sur notre avenir et nous verrons ce que nous pouvons faire à ce sujet. Jetons un coup d'œil à celles qui vont bientôt nous affecter et dont les effets commencent déjà à être perceptibles. Premièrement, la Bible mentionne un temps où il y aura un rejet de Dieu à un niveau encore jamais atteint. L'apôtre Paul décrit cet état de choses en détail dans 2 Timothée 3, à partir du verset 1. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, blasphémateurs, irréligieux, aimant le plaisir plus que Dieu. » Blasphémateurs, irreligieux, aimant le plaisir plus que Dieu? Cette manière d'agir n'est-elle pas un rejet de Dieu? Les journaux font souvent état de tels comportements. Dans la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens chapitre 2, commençant au verset 3, il est question d'une rébellion contre Dieu, d'une vaste apostasie devant avoir lieu à la fin des temps. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et que l'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. La prophétie affirme que même les lois de Dieu les plus naturelles seront alors rejetées, car les gens seront fortement attachés au plaisir et à la vanité. La prophétie parle d'un temps qui reflétera la culture gréco-romaine, qui avait été condamné par l'apôtre Paul dans Romains 1, à partir du verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impureté et toute injustice des hommes, qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En conséquence, Dieu les a abandonnés à leur propre folie. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Réalisons-nous que le monde se dirige de plus en plus dans cette direction? Soyons honnêtes et regardons ce qui se passe autour de nous. Les longs discours affirmant qu'un fœtus n'est pas un être vivant sont-ils inspirés de la Bible ou encore de l'amour naturel qu'une mère doit avoir pour son enfant? Ne s'agit-il pas plutôt d'un raisonnement humain exprimé par quelqu'un qui, au nom de la liberté de choix, cherche sa propre satisfaction? La parole de Dieu, qui explique la condition naturelle de l'homme et de la femme en matière de sexualité, est-elle au cœur des changements grandissants sur la définition du mariage? Ou l'être humain s'est-il lui-même proclamé l'arbitre de ce qui est bien ou mal? Qui a l'autorité de dire ce que doivent être le mariage et les relations sexuelles? Est-ce le Dieu qui les a créés? Ou le Dieu de ce monde qui rejette tout engagement au profit d'une liberté totale? Quand une société commence à rejeter le Dieu créateur aussi complètement et entièrement, comme cela avait été prophétisé, ceux qui ne suivent pas la majorité deviennent visibles. Nous allons tous devoir faire un choix difficile. Suivre le courant et faire comme tout le monde, ou rester attaché à la vérité et en souffrir les conséquences. Le temps approche où l'on exigera que chacun prenne position face à la vérité. L'état actuel des choses change rapidement et ce n'est qu'un début. De tels événements n'ont pas à nous prendre par surprise et nous n'avons pas non plus à dépendre des analyses boiteuses de certains commentateurs télé, ni des opinions biaisées des chroniques journalistiques. La Bible révèle aujourd'hui les titres qui paraîtront dans les journaux de demain. Toute la littérature publiée par l'équipe du Monde de demain, comme celle offerte aujourd'hui, peut réellement vous aider à comprendre les prophéties de Jésus-Christ.
Pour en apprendre davantage sur le thème traité au cours de cette émission, commandez notre brochure gratuite, sans aucune obligation de votre part, intitulée « 14 signes annonçant le retour du Christ ». Cette brochure vous dévoilera les signes précurseurs au retour du Christ. Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger celle-ci à partir de notre site Internet. Appelez dès maintenant.
Nous discutons aujourd'hui de 5 prophéties bibliques qui auront un impact réel sur votre vie dans les années à venir. Reprenons la liste de ces prophéties. 1. Rejet de Dieu à un niveau encore jamais atteint. 2. Croissance mondiale d'un faux christianisme ultra-puissant. Il peut sembler contradictoire qu'un rejet général et massif de Dieu conduisent à la popularité croissante d'un faux christianisme. Mais la Bible ne laisse aucun doute à ce sujet. À la fin des temps, il y aura un renouveau d'intérêt à l'échelle internationale pour un christianisme de contrefaçon. Et cela, même chez les nations les plus séculières, comme c'est le cas dans certaines nations en Europe actuellement. Cette religion dominera la terre entière. Et ce sera une religion de mensonge. Voyons la description de ce faux christianisme et de son puissant dirigeant dans Apocalypse 13, à partir du verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer. » Il faut savoir que la Bible interprète ses propres symboles prophétiques. Aussi, l'agneau dont il est ici question, c'est Jésus-Christ. Et la bête, qui parle comme un dragon, représente un dirigeant religieux qui ressemblera à un disciple du Christ et dont la religion aura une apparence de christianisme. Il nous est dit dans 2 Thessaloniciens 2, verset 9, « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. » Apocalypse 17 dépeint une grande église, symbolisée par une femme, qui influencera le pouvoir politique et la puissance militaire meurtrière d'un gouvernement fortement séculier, afin d'imposer sa volonté au monde entier. Apocalypse 17, 6. Je vis cette femme, cette grande fausse église, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et, en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Les prophéties bibliques de l'Apocalypse, d'Ézéchiel et d'autres livres révèlent que les véritables chrétiens seront alors persécutés et qu'ils souffriront beaucoup aux mains de ce pouvoir religieux. Alors que les souvenirs de l'Holocauste de la Seconde Guerre mondiale et des tueries des Khmers rouges au Cambodge semblent s'estomper trop facilement dans la mémoire collective de la civilisation occidentale, la Bible révèle que ces temps sont loin d'être terminés. En fait, des persécutions plus grandes encore auront lieu à l'échelle mondiale. Ces événements vont affecter plusieurs d'entre vous. Beaucoup pensent que la religion est une question de vie ou de mort seulement dans des endroits comme le Moyen-Orient, ravagé par l'expansion de l'État islamique, ou encore dans des coins reculés de la planète où les persécutions sont courantes. Mais en réalité, la persécution future et mondiale des véritables chrétiens approche. Et ce que plusieurs ne savent pas, c'est que ces actes seront perpétrés par des gens qui prétendront agir au nom du Christ. Qu'allez-vous faire lorsque vos croyances deviendront non seulement impopulaires, mais qu'elles pourront vous occasionner de grandes souffrances? Que pourrons-nous faire? Y a-t-il des précautions à prendre maintenant? Nous en reparlerons plus tard au cours de l'émission. Mais pour l'instant, laissez-moi vous parler de la troisième prophétie. Désastre naturel dévastateur et maladie épidémique à l'échelle mondiale. Plusieurs se rappellent des images émouvantes venant d'Éthiopie durant la grande famine qui a tué plus d'un million de personnes. Des millions d'autres, après avoir frôlé la mort, ont ensuite été précipités dans un état d'extrême pauvreté. Plus récemment, des milliers d'Africains, victimes du virus Ebola, ont trouvé la mort malgré l'effort mondial intense déployé pour tenter d'arrêter la propagation de cette épidémie. Or, la Bible affirme avec autorité que l'avenir nous réserve des événements plus terribles encore. Si nous pensons que cela ne peut pas se produire ici, nous avons tort. Cela peut et cela va se produire, même ici. Le chapitre 6 de l'Apocalypse nous montre une époque prochaine, généralement connue comme étant celle des quatre cavaliers de l'Apocalypse, lesquels sont montés sur quatre chevaux, un cheval blanc, un noir, un roux et un verdâtre. La brochure que nous vous offrons aujourd'hui, 14 signes annonçant le retour du Christ, révèle le contexte de la réalisation de cette prophétie. Il est à noter que le cheval noir et son cavalier symbolisent une grande famine et un manque de ressources essentielles à la vie sur la terre, alors que le quatrième cheval et son cavalier symbolisent des maladies dévastatrices. Apocalypse 6, verset 8, nous apprend que l'effet combiné du passage de ces quatre chevaux va provoquer la mort du quart de l'humanité, des milliards d'hommes, de femmes et d'enfants. Que pourrons-nous faire face à de tels événements? Quand nous réalisons l'impuissance de l'homme face à ce qui peut se produire en termes de catastrophes naturelles, comme de puissants ouragans, de violentes tornades et des tremblements de terre dévastateurs, et que nous y ajoutons les graves épidémies de maladies incurables, il est difficile d'ignorer ce que Dieu a annoncé. Les Écritures rapportent que Dieu annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Voyons ce qui est écrit dans Ésaïe 45, verset 21. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Dieu parle avec autorité. Il est le Tout-Puissant et ses événements approchent. Plusieurs d'entre nous y seront confrontés. Que pourrons-nous faire? Certains pourront-ils échapper?
Pour en savoir davantage sur les événements qui se produiront dans un avenir rapproché, demandez notre brochure gratuite « 14 signes annonçant le retour de Christ ». Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran ou téléchargez le texte à partir de notre site Internet. Vous recevrez aussi, sans frais, la revue « Le monde de demain » qui vous fournira des informations pertinentes relativement à l'existence humaine et ce que nous réserve l'avenir. Appelez dès maintenant.
Jusqu'à maintenant, nous avons parlé de trois prophéties qui auront un impact réel dans la vie de plusieurs d'entre nous. Examinons maintenant la quatrième prophétie. Destruction des États-Unis, de la Grande-Bretagne et des nations anglophones. Il n'y a pas très longtemps, le fait d'évoquer la destruction des États-Unis, la nation alors la plus puissante au monde économiquement et militairement, semblait un peu ridicule. Honnêtement, cela ne semble plus aussi ridicule maintenant, n'est-ce pas? Aussi puissante qu'ait pu être l'armée américaine, elle n'est plus considérée de nos jours comme étant une force invincible. Plusieurs nations cherchent même, par tous les moyens, à se libérer de l'emprise économique américaine, craignant que cette nation ne devienne trop endettée et ne soit entraînée dans un gigantesque gouffre financier. Ainsi donc, celle qui a déjà été une puissante nation qui pouvait imposer sa loi partout dans le monde ne semble plus être aussi puissante, autant du point de vue économique que militaire. Alors que beaucoup ne le réalisent pas, la Bible décrit les États-Unis dans ses prophéties. Elle fait référence aux États-Unis, à l'Angleterre, au Canada, à l'Afrique du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, toutes les nations de souche britannique. Elle décrit aussi les nations modernes d'Europe, l'Union européenne, des nations d'Asie, d'Afrique, de même que celles du monde hispanophone. La Bible est pleine de prophéties pour nos temps modernes. Quand vous parvenez à identifier ces nations dans les Écritures, vous découvrez que leur avenir donne à réfléchir. Examinez ce que rapporte le livre de Lévitique au sujet de l'avenir des nations comme les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui ont été particulièrement choyées jusqu'à maintenant. Dans Lévitique 26, à partir du verset 31, Dieu dit « Je réduirai vos villes en désert, je ravagerai vos sanctuaires, je dévasterai le pays, je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes. » Ces nations seront frappées. Les prophéties indiquent qu'elles subiront de plus en plus d'attaques terroristes et que des maladies incontrôlables se développeront à l'intérieur de leurs frontières. Leurs récoltes seront rares et les gens auront faim. L'endettement les réduira à l'esclavage. Leurs villes seront dévastées, possiblement par des attaques biologiques, chimiques ou nucléaires. Comme Dieu l'a dit dans Ézéchiel 5, verset 12. « Un tiers de tes habitants mourra de la peste et sera consumé par la famine au milieu de toi. Un tiers tombera par l'épée autour de toi, et j'en disperserai un tiers à tous les vents, et je tirerai l'épée derrière eux. Pourquoi faut-il que ces choses se produisent? Dieu l'explique très clairement dans sa parole, la Bible. Il dit aux nations de souche britannique, dans notre monde contemporain, ce qu'il a déjà dit à leur ancêtre, l'ancienne nation d'Israël. Voyons-le dans Deutéronome 32, 18. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Ces événements se produiront parce que toute la nation a péché et qu'elle a cessé d'obéir au Dieu qui a créé toutes choses. À moins que les peuples américains, britanniques et autres nations anglophones ne se repentent de leurs péchés sur le plan national, leur destruction dans les années à venir est assurée. C'est aussi inévitable que le lever du soleil demain matin. Et la destruction de ces nations affectera les habitants de la terre entière. Que faut-il faire? Que pouvons-nous faire? La dernière prophétie dont nous allons parler aujourd'hui est directement reliée à cette question. Annonce du royaume de Dieu à toutes les nations. Jésus-Christ l'avait prédit dans Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Juste avant la fin des temps, un groupe de croyants participera chacun par son exemple, son appui et ses prières au plus grand projet qui soit, celui de proclamer l'Évangile du royaume de Dieu à toutes les nations. L'annonce d'un gouvernement mondial dirigé par le Christ lui-même. Dieu a promis de protéger ceux qui sont prêts à se dévouer pour participer à ce grand projet. À ceux qui sont prêts à subir des procès, affronter des difficultés, être raillés, mais qui persévèrent, malgré les persécutions, à la diffusion du message annonçant l'établissement prochain de son royaume sur la terre. Nous voyons cela dans Apocalypse 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Dieu a promis sa protection à ceux qui mettront leur espoir en lui. Luc 21, verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Le temps approche. Ces prophéties vont s'accomplir. Quand nous verrons ces choses commencer à arriver, serons-nous remplis de peur et d'effroi? Ou si, au contraire, nous relèverons la tête avec reconnaissance en voyant là les signes attendus du retour du Christ et de la délivrance de l'humanité? Cela dépend de chacun. Cela dépend de ce que nous faisons avec ce que nous savons. Les événements mondiaux qui se déroulent actuellement sous nos yeux devraient nous convaincre de l'importance d'examiner les prophéties bibliques. Restez à l'écoute pour notre court segment « Le monde de demain répond ». Vous y trouverez les réponses aux questions que vous nous avez envoyées. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Même heure, même station.
Visitez notre site Internet pour lire ou commander la brochure intitulée « 14 signes annonçant le retour du Christ ». Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran ou téléchargez le texte à partir de notre site Internet.
Bienvenue. Le monde de demain répond à vos questions directement à partir de la Bible. Peu de temps avant de mourir, Jésus fit une promesse étonnante à un criminel crucifié à ses côtés. Quelle était cette promesse relatée dans Luc 23, 43? Aujourd'hui, nous avons l'avantage de lire la Bible dans notre langue maternelle. Elle est divisée en chapitres et en versets. Vous ne réalisez peut-être pas que les traducteurs de la Bible devaient décider où et comment insérer la ponctuation, car aucune ponctuation, ni même espace entre les mots et les phrases, n'existait dans les textes grecs originaux. Tout bien considéré, ils ont fait un travail formidable. Mais lisons Luc 23, 43 et voyons le problème causé par une virgule mal placée. Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Ce verset semble indiquer que le Christ et le criminel allaient être tous les deux au paradis ce même jour, après leur décès. Mais relisons le verset en plaçant la virgule à une position différente. Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ce simple changement associe le mot « aujourd'hui » au moment de la promesse plutôt qu'à son accomplissement. Comment savoir si la virgule est au bon endroit? Regardons l'Évangile selon Jean qui relate un échange entre Jésus et Marie de Magdala après la résurrection du Christ. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. » Si la promesse faite par le Christ au criminel s'était accomplie le jour de sa mort, il n'aurait pas pu dire à Marie, après sa résurrection, « Je ne suis pas encore monté vers mon Père. » La seule conclusion logique est que le mot « aujourd'hui » ne fait pas référence au moment de l'accomplissement de la promesse. La virgule est donc au mauvais endroit. Ce passage est malheureusement souvent utilisé pour soutenir une doctrine non biblique selon laquelle le ciel est la récompense des saints. Examinons aussi Jean 3, 13, qui lui est très explicite. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Jésus n'a pas promis aux criminels qu'il irait au ciel le jour de sa mort. Si vous désirez soumettre une question, contactez-nous par courriel à l'adresse indiquée à l'écran. Pour visionner les autres capsules Le Monde de Demain répond, visitez notre site internet mondedemain.org ou encore Le Monde de Demain répond sur YouTube.
Sur notre site internet, nous vous offrons de multiples ressources révélant les principes divins qui apportent un sens à la vie humaine, en plus de fournir une perspective unique sur les événements mondiaux actuels et futurs. Vous recevrez aussi sans frais la revue Le Monde de Demain. Appelez dès maintenant. Cette émission est produite par l'Église du Dieu vivant.